enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors ce soir, veux-tu être joyeux ? Le « veux-tu être joyeux », c'est finalement le titre de mon message ce soir. Je vous propose ce titre sous forme de question, et je voudrais pas forcément, bien que certains l'ont déjà fait, que vous y répondiez immédiatement, mais que vous puissiez peut-être y répondre à la fin de ce message. Parce que des fois, on répond différemment à une question lorsque l'on a entendu un message. Et j'espère qu'à la fin de ce message, à « veux-tu être heureux », tout le monde répondra « Amen ». Et je voudrais partager mon message de manière suivante. J'aimerais d'abord quelque peu essayer de faire la rétrospective d'une vie terrestre, la vie terrestre de quelqu'un vivant sur cette terre, et essayer de happer, de chercher quelques moments de joie dans sa vie. Et ensuite, j'aimerais, au travers de cette rétrospective, eh bien, essayer de vous donner quatre clés qui vous aideront ou qui vous permettront à la fois de recevoir la joie, à la fois de voir également votre joie grandir et grandir et grandir et grandir. Amen. Alors faisons pendant un instant peut-être la rétrospective d'une vie. C'est bientôt la fin de l'année, et en général, quand la fin de l'année arrive, on fait une rétrospective de l'année passée. Alors vous avez encore un mois à peu près pour essayer de vous rattraper s'il vous reste des choses à faire, pour que votre rétrospective ne soit pas trop laborieuse. Mais j'aimerais en tout cas parler, eh bien, ce soir, quelque peu d'une vie qui part de la naissance à la mort. Et essayez donc d'y trouver là quelques temps, quelques moments de joie. Tout d'abord, un nourrisson ou un bébé qui est dans le sein de sa mère. Lorsqu'il sort du sein de sa mère, il commence en général non pas par rigoler ou sourire, hein, les mamans, mais il commence par pleurer, hein. Souvent, c'est pas des pleurs de joie qui émanent de sa bouche lorsqu'il sort du sein de sa mère, mais c'est des cris qui semblent plutôt être des hurlements. Pourquoi? Simplement, souvent, parce que l'enfant qui était tellement bien dans le sein de sa mère, je pars évidemment là du principe d'une famille équilibrée, aimant son enfant, et qui le cajole alors même qu'il est encore dans le sein de sa mère. Eh bien, lorsque l'enfant sort du sein de sa mère et qu'il hurle, c'est certainement et probablement parce qu'il est agressé par le nouvel environnement dans lequel il se trouve. Pendant 9 mois, il était tellement bien dans le ventre de la maman, nageant le crawl, la brasse, et toutes sortes de nages, tranquillement, protégées, bien au chaud. Et voilà qu'il arrive dans un environnement qui lui est quelque peu hostile. Et puis voilà que le bébé grandit et arrive le petit qui marche sur quatre pattes, que l'on cajole, que l'on aime, à qui l'on donne le biberon lorsqu'il pleure, à qui l'on change les couches. Claude y est en plein dedans, dans les couches. Pas lui, hein, ses enfants, hein. Et puis, de temps en temps, il faut leur mettre une correction, évidemment. Parce qu'ils ne font pas toujours forcément ce qui va dans le sens de l'obéissance. Et je dirais même pas toujours naturellement. Alors, eh bien, de temps en temps, il faut lui mettre une petite fessée, hein. Mais alors, tant qu'il a les couches, ça va bien, hein. Les couches, c'est un peu, ça fait un peu office d'airbag. Surtout lorsqu'elles sont remplies, ça amortit la chute. Et puis l'on grandit, et puis l'enfant commence à aller à l'école. Il est quelque peu insécurisé, parce qu'il ne se trouve plus dans le milieu dans lequel se trouvent ses parents qui le cajolaient, mais voilà qu'il se trouve auprès de copains, de copines, etc. Et là, il doit affronter certaines choses qui peuvent peut-être lui sembler difficiles, parce que les parents ne sont plus là pour le rattraper ou le relever. L'autre jour, j'ai mon fiston Timothée, 7 ans, il vient me voir. Il me dit « Papa, on m'a frappé à l'école. Il y a une bande là dans ma cour, et chaque fois que je vais à l'école, ils viennent et puis ils me frappent, ils me font mal. » Alors je le regarde, je dis « Timothée, la prochaine fois qu'ils te font quelque chose, tu me dis et je viens. » Il me dit, ok, papa. Et puis, voilà que quelques jours passent. Et puis, je discute avec lui et je lui dis, mais est-ce que ça va bien avec la bande-là qui te frappait? Il me dit, oui, papa, ça va bien. Je dis, c'est bien, il t'a plu. Il me dit, non, papa. Alors, je regarde, je lui dis, mais comment tu t'y es pris? Est-ce que tu vas voir la maîtresse? Il me dit, non, non. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, ben voilà, moi je me suis dit que finalement, pour me défendre, j'allais créer ma propre bande à moi. 7 ans, hein. Alors j'ai invité Ali, Rachid, Mohamed. Ils sont venus dans ma bande. Et puis maintenant, ils ne me touchent plus, hein. Parce que s'ils me touchent, gare à eux, hein. Je lui dis, bon, c'est une solution comme les autres, hein, finalement. Et puis l'enfant grandit, il grandit. Et voilà qu'arrive l'âge de l'adolescence et de la préadolescence. C'est un âge qui n'est pas forcément facile, hein. Certains font oui, comme ça. On a l'impression qu'ils sont toujours malheureux. Hein, vous avez jamais remarqué? Ils se lèvent le matin, comment tu le matin? Ben. Et puis le soir, l'école, ça s'est bien passé. Hein. Et puis, on les voit rarement sourire, hein. Et on se dit que c'est certainement l'âge où ils sont le plus à la recherche de la joie, hein. Mais ils ont dû la perdre quelque part en cours de route. Vous avez beau essayer de faire tout ce que vous voulez, mais rien à faire. Et puis voilà qu'arrivent les études. Et avec les études, bien, il faut apprendre, il faut se donner de la peine, il faut... Moi, des fois, je regarde les cahiers des étudiants. Ce soir encore, il m'est arrivé de regarder les feuilles d'une étudiante. Mais... Félicitations, hein. Moi, j'y comprends rien de rien de rien. Pour moi, c'est du hiéroglyphe. Et je félicite ceux qui font des études. Soyez intelligents. Persévérez afin de devenir intelligence pour que Dieu puisse vous placer non pas à la queue, mais à la tête. C'est là qu'il vous désire. Toutefois, ce n'est pas toujours facile de faire ces études. Surtout lorsque l'on se rend compte que le métier que l'on fait plus tard n'est pas forcément celui qui est en rapport avec toutes les études que l'on a fait. Et alors là viennent des moments où on est peut-être abattu, malheureux. Et puis la vie continue. Voilà que l'on devient adulte. Et puis en tant qu'adulte, il faut travailler. Puis travailler, ça veut dire se lever tôt le matin. Ça veut dire travailler d'équipe. Ça veut dire terminer tard. Ça veut dire transpirer pour gagner son salaire. Les mois, quand on commence à travailler, ne nous semblent jamais aussi longs. Vous avez jamais remarqué? Certains, déjà le 10 du mois, ils disent vivement la fin du mois. Et puis voilà que viennent les enfants. On crée nous-mêmes une famille. Et puis les enfants pleurent. Et puis les nuits sont difficiles parce que la nuit, ils font les dents. Et puis la journée, c'est les couches de nouveau. Puis voilà que vient un roulement et puis on cherche des temps et des moments où on peut saisir des instants où on peut être joyeux. Et voilà qu'arrive la retraite. Parce que finalement on se dit, eh bien quand les enfants seront grands, ils seront casés. Et alors je pourrai profiter avec mon épouse. Et puis quand la retraite arrive, si vous y arrivez, c'est encore pas sûr. Vous devenez grand-papa Samuel, bien que lui soit pas encore à la retraite. Et puis à l'âge de la retraite, pensant que vous pouvez en profiter, vous vous tournez vers votre épouse. Et quand vous la voyez, vous dites, mais si seulement elle avait 20 ans de moins. Et puis elle doit se dire la même chose de vous, hein. Je rassure les épouses. Bien qu'en général, l'homme reste quand même assez svelte, hein. Et là, je parle de vies qui sont à peu près équilibrées. Je parle, peut-être quand je parle également de la retraite, viennent se greffer à cela des problèmes de santé, des problèmes physiques, etc., etc. Et dans une vie, dans cette vie que l'on mène, eh bien, il nous faut trouver, puiser, chercher des moments où l'on peut essayer d'être quelque peu joyeux. Mais j'aimerais vous dire ce soir que la vraie joie, celle que Dieu veut nous donner, ce n'est pas une joie que l'on puise dans les circonstances que l'on vit lors de notre vie et où que tu en sois. À quelque stade que tu sois de ta vie, eh bien la vraie joie, ce n'est pas là que tu peux la puiser. Ce n'est pas dans les circonstances que tu peux la puiser. Laisse-moi te donner 4 endroits où tu peux puiser ta joie et où elle peut grandir. Premièrement, la joie du salut. Dans le psaume chapitre 13, verset 6, il est dit « Ton salut remplit de joie mon cœur ». La vraie joie, elle vient dans ton cœur lorsque tu réalises que Jésus t'aime. Lorsque tu réalises que lui t'a tant aimé. Jean chapitre 3, verset 16. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez du jour où vous avez dit oui à Jésus, et où cette joie a rempli votre cœur. Mais lorsque moi j'ai dit, là derrière, à peu près au fond de cette rangée, le jour où j'ai dit oui à Jésus, j'étais tellement heureux. Je vous l'avais raconté déjà, je suis rentré chez moi, mon épouse était en train de dormir, je l'ai secoué en lui disant, j'ai reçu Jésus, j'ai dit oui à Jésus. Et toute la nuit, je louais le Seigneur, tellement la joie avait rempli mon cœur. Et je ne savais que cette joie était au-dessus de toutes les joies que j'avais connues jusqu'alors. Amen. Ton salut remplit de joie mon cœur. Dans Luc chapitre 2, verset 10, quand Jésus naît, on va bientôt fêter Noël. Quand Jésus naît dans la crèche, il est dit, l'ange dit au berger, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce soir, Jésus peut être dans certains cœurs. Veut naître en vous afin de vous donner cette joie et de vous permettre de la recevoir. Zachée a cherché sa joie dans l'argent. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il est dit joyeux, Zachée le reçut avec joie. L'eunuque cherchait le Seigneur et la joie, il la cherchait au travers de la religion juive, judaïque. Mais revenant des églises avec leurs traditions, il n'a pas trouvé cette joie. Et voilà que s'en allant en direction de l'Éthiopie, il rencontre Philippe qui lui parle d'Ésaïe et de Jésus. Et il est dit alors dans le texte de Actes chapitre 8, joyeux, il poursuivit sa route. Amen. Vous rappelez-vous de ces temps merveilleux dans lesquels vous avez dit oui à Jésus? Oh, gardez cette joie. Elle est tellement merveilleuse. Gardez cette saine motivation. Lorsque les difficultés viennent, de pouvoir dire, Seigneur, je me réjouis parce que quoi qu'il m'arrive, je sais que tu es mort pour moi sur la croix. Amen. Deuxième point. Deuxième clé, la joie est le résultat d'une vie remplie du Saint-Esprit. La joie est le résultat d'une vie remplie du Saint-Esprit. Lorsque je regardais les frères et sœurs qui étaient baptisés dimanche, il y avait une sœur allemande ou suisse allemande qui témoignait de sa joie de se faire baptiser. Et j'ai dit, mais Seigneur, merci pour la fraîcheur de cette joie. Mais celle-ci, nous ne pouvons la recevoir et la garder, lui permettre de grandir que dans la mesure où l'Esprit de Dieu remplit notre cœur. Et plus nous laissons de la place au Saint-Esprit, plus cette joie est là et plus elle se voit. Plus elle se voit. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous communique son caractère. Il ne vient pas qu'avec une partie de sa personne. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient avec son entière identité. Et lorsque vous lisez Galates chapitre 5, verset 22, vous voyez quelle est l'identité du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, en particulier la joie. Et quand le Saint-Esprit vient vous habiter, vous savez, souvent on décrit l'image de Dieu ou du Saint-Esprit, on a l'impression que c'est quelqu'un de très austère. Mais je crois qu'il est également joyeux, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient vivre en nous, il nous communique son caractère, sa joie. Et alors on peut dire, ben cette joie, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas des circonstances, elle vient du Saint-Esprit qui vit en moi. Amen. J'aime l'histoire dans Jean chapitre 4 de cette Samaritaine. Lorsque je lisais l'histoire de la Samaritaine, souvent on parle de la Samaritaine, mais pour essayer d'analyser les difficultés que vivait la Samaritaine, j'ai essayé de me mettre à la place de sa sixième rencontre. J'allais dire son sixième mari, mais avec le sixième homme, elle n'était pas mariée. Et j'ai essayé d'imaginer, eh bien, cet homme rencontrant la Samaritaine. Je pense que si la Samaritaine avait cinq maris et un sixième homme, c'est qu'elle devait être pas mal. Finalement, la Samaritaine, elle devait quand même plaire. Enfin, j'ose le penser. Alors essayons de voir la scène de cette Samaritaine marchant dans son village à Sichar. Et puis voilà qu'un homme la croise et paf, le coup de foudre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, un coup de foudre. Hein. Mais imaginez cet homme ayant un coup de foudre rien qu'au regard de la Samaritaine. Alors il se dit, elle, faut pas que je la loupe, là je vais l'inviter au restaurant. Alors voilà, pardon madame, je voudrais vous inviter. Oui, pas de problème. Finalement, elle avait plus de mari, donc elle était libre. Puis voilà qu'ils vont dans un bon restaurant du coin, avec un toquet en apéritif, une bonne choucroute en plat de résistance. Et puis l'homme, en général, les hommes sont souvent très pressés, beaucoup plus pressés que les femmes. Hein. Lui, dans sa poche, il avait déjà l'écrin avec la bague de fiançailles, prêt à lui offrir. Alors il lui pose des questions pour essayer de la connaître. D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis une question qu'il aurait peut-être jamais dû poser, c'est « Est-ce que tu as déjà été marié ?» Alors elle était embarrassée, la Samaritaine. Hein. Puis oui, j'ai été mariée une première fois et puis mon mari est mort. Alors le copain, il devait dire ben, « Écoute, mes condoléances. Hein. » Et puis j'ai eu un deuxième mari et puis il est mort. Puis là, il commençait à s'inquiéter un petit peu. Et puis un troisième mari, un quatrième. Et puis lui, il remballait déjà sa bague. Hein. Le premier, ça allait encore. Mais alors au bout du cinquième, il s'est dit, si moi je finis comme les cinq autres, plutôt ne jamais me marier. Alors finalement, il a gardé sa bague et il a décidé de se paxer avec la Samaritaine. Mais la Samaritaine était-elle malheureuse de la situation qu'elle vivait? Essayez d'imaginer la Samaritaine en train de puiser au puits à Sichar. Probablement lorsqu'elle remonte le seau avec de l'eau, elle devait y voir là dans l'eau son visage. Et en regardant son visage, peut-être qu'elle-même faisait une rétrospective de sa vie en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ma vie? J'ai cherché le bonheur chez les hommes et je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et puis là, derrière elle entend un bruit, elle se retourne et elle voit le visage d'un homme plus reluisant qu'aucun de ceux qu'elle avait connu, Jésus, il était là. Et Jésus lui dit, mais toi qui as eu cinq maris et qui vis maintenant avec un homme qui n'est pas ton mari, j'aimerais te dire que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Tu peux te marier encore deux fois, trois fois, dix fois, mais si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. On a l'impression que certaines personnes recherchent tout le temps leur bonheur au travers de choses qui finalement les ont blessées, mais ils continuent, et on a l'impression que la vie, c'est un éternel recommencement. Et dans cet éternel recommencement, ils sont tout le temps malheureux, voire plus malheureux. Et Jésus lui dit, mais moi je te propose de l'eau. Cette eau, elle vient pas d'en bas. Elle vient d'en haut. Et si tu bois cette eau que je te propose, alors elle viendra en toi et elle jaillira de l'intérieur de toi jusque dans l'éternité. Ça veut dire que l'eau ne viendra pas d'une source qui est humaine, elle viendra d'une source qui est éternelle et elle viendra en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et alors tu seras heureuse, tu seras joyeuse, parce que tu connaîtras celui seul qui peut réellement et de manière durable te rendre heureuse. Et je crois de tout mon cœur que cette femme, courant pour dire aux habitants de son village, regardez ce qu'il m'a dit, il m'a dit exactement ce qui était arrivé. Je crois que cette femme a été touchée, sauvée et s'est réjouie de la présence de l'Esprit en elle. Amen. Buvons à cette source. Et tout à l'heure, nous avons prié pour ceux qui désiraient être baptisés du Saint-Esprit. Mais voyez-vous, moi je crois de tout mon cœur qu'il faut toujours désirer être baptisé du Saint-Esprit. Tout au moins, il faut toujours vouloir être rempli davantage du Saint-Esprit, de manière à exprimer ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, et en l'occurrence la joie. Troisième chose, la joie grandit lorsque nous arrivons à conduire des personnes à Jésus et les voir vivre des expériences. Amen. Quand vous êtes rempli de cette joie du Saint-Esprit, alors votre joie, c'est de parler de cette bonne nouvelle, d'en parler avec joie et de dire à ceux qui vous entourent, « Vois-tu, je crois qu'il y a une solution pour toi. » Probablement vous êtes rempli de personnes qui sont tristes et qui se demandent d'où vient votre joie. Alors dites-leur, proclamez-le. J'aime beaucoup ce que Moody, grand évangéliste, dira. Il a dit ceci, « Je crois que si un ange devait s'envoler de la terre pour arriver au ciel et raconter qu'il y a ici-bas un pauvre petit garçon en haillons, sans mère ni père, et sans personne pour s'occuper de lui et lui apprendre la vie. Et si Dieu devait demander qui, parmi eux, parmi les anges, veut bien descendre sur terre et y vivre 50 ans pour conduire cette personne à Jésus-Christ, tous les anges du ciel se proposeraient spontanément. Même Gabriel, celui qui se tient dans la présence du Tout-Puissant, dirait « Laisse-moi quitter ma situation élevée. » Et donne-moi l'extrême bonheur de pouvoir conduire une seule âme à Jésus-Christ. Donne-moi l'extrême bonheur de pouvoir conduire une seule âme à Jésus-Christ. Vous réjouissez-vous encore aujourd'hui, comme au premier jour, de pouvoir, parce que rempli du Saint-Esprit, conduire une âme à Jésus-Christ ? Vous réjouissez-vous lorsqu'au travers de la joie que vous manifestez autour de vous, les personnes sont interpellées et parce qu'interpellées, eh bien, se réjouissent de trouver celui qui vous a donné la joie. Vous réjouissez-vous de cela? Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent? Y a-t-il de la joie dans votre cœur pour un seul pécheur qui se repent? Amen. Mais voir une âme être touchée nous remplit de tant et tant de joie. Voir une âme vivre des expériences, la présence de Dieu, nous remplit de tellement de joie. Je viens de terminer un livre que j'ai trouvé excellent. On vous parlera certainement d'un autre livre en cours dans les prochains temps, mais ce livre s'appelle Rinaldo. C'est le livre suivant. Rinaldo est l'histoire d'un Brésilien qui faisait partie d'un gang. Je vous raconte juste quelques bribes de son témoignage. Parce que ce sont des témoignages qui moi, me réjouissent lorsque je vois la manière dont Dieu agit dans des vies. Et cet homme, à force de voler, à force de braquer des banques, à force de braquer, il a commencé à voler des avions pour des cartels. Cartel de Medellín, le monde de la drogue. Et puis un jour, alors qu'un braquage avait raté, voilà que cet homme se fait courser par des policiers. Et il lui arrivera une chose bizarre. Je la dis parce que je pense que le Dieu est le Dieu du miracle qui est capable de tout. Y compris de faire des choses qui sont complètement irrationnelles. Cet homme, alors qu'il était poursuivi, tombe au sol et il voit les deux policiers lui tirer dessus. Et il voit comme au ralenti les deux balles se diriger vers sa tête. Et au moment où les balles se dirigent vers sa tête, il voit une main géante dévier les balles. Et à ce moment-là commence un travail de Dieu dans son cœur, parce qu'il a vu l'œuvre de Dieu. Cet homme va en prison, je ne raconte pas les détails. Et puis là, en prison, une personne vient le visiter, lui parle de Jésus, et a la joie de l'emmener au Seigneur. Si bien que cet homme en prison demande l'autorisation aux personnes de sa cellule de pouvoir témoigner et faire un culte. Alors les personnes de la prison dans laquelle il se trouvait, de la geôle, lui disent, ben écoute, tu peux, mais tu le fais dans les toilettes. C'est une toilette de 1m50 sur 1m50. Il dit, ok, c'est mieux que rien. Puis au bout d'un moment, les personnes venaient, étaient touchées, et un homme était là. Et il lui dit, si tu continues à parler de Jésus, tu ne parleras plus jamais, ni de Jésus, ni de personne. C'est un baraqué. Et puis il dit, bon, moi je continue. Hein. Plus tard, cet homme viendra le voir, alors qu'il continuait, que de plus en plus de personnes dans la cellule venaient à Jésus et lui dira, voilà, j'avais une telle envie de te détruire et de mettre en œuvre ce que je t'avais dit. Mais à un moment, j'essayais d'approcher de toi et quelque chose m'empêchait d'approcher de toi. J'aurais voulu te détruire face à ce que tu disais, mais je pouvais pas te détruire. Alors je voudrais connaître ton Dieu. Et j'aimerais que tu m'apprennes à lire parce que je ne sais pas lire. Et cet homme heureux a bien sûr commencé à lui apprendre à lire au travers de la Bible et de textes bibliques. Et puis un jour, il lui lit Jean 3,16. Et lui demande de relire Jean 3,16. Et quand il avait fini de lire, il lui dit, mais est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Il lui dit, mais non, je peux pas lire et en même temps comprendre ce que je lis. Il lui dit, mais maintenant tu relis et tu essayes de comprendre tranquillement ce que Dieu veut te dire. Il a relu Jean 3,16. Il a commencé à pleurer, il a été touché. Amen. Plus tard, juste encore un témoignage. Plus tard, cet homme était dans sa prison et puis il voulait savoir ce que Dieu voulait réellement de lui. Est-ce qu'il devait continuer à témoigner dans ces lieux difficiles et arides? Et alors que depuis des mois et des mois, il n'avait pas eu de visite, il dit, Dieu, je te fais cette prière. Si vraiment tu veux que je continue dans ce lieu à travailler pour toi, je voudrais, il a posé une toison à la Gédéon, je voudrais que dimanche prochain, lors des visites, non seulement une personne vienne me visiter, alors que depuis des mois, je n'ai plus été visité, mais je voudrais qu'elle m'amène un sachet dans lequel se trouvent des pâtes, du poulet et une bouteille de coca. Voilà que le dimanche arrive, cet homme était toujours dans sa dépression, avait oublié sa prière et on le demande au parloir. Enfin une visite. Et une femme arrive et lui dit, voilà, j'ai un sachet pour toi, prends-le. Si c'est une chrétienne, elle prie pour lui et elle repart. Cet homme arrive de nouveau dans sa cellule, il jette son sachet dans un coin et puis il n'y prend pas garde. Et puis un moment, alors qu'il priait, il regarde le sachet, il dit, faut quand même que je regarde ce qu'il y a dans le sachet. Bien sûr, vous avez tous deviné ce qu'il y a dans le sachet. Il y avait des pâtes, du poulet et une bouteille de coca. Et la femme de lui raconter plus tard, en me levant le matin, j'avais le désir de te faire ce repas-là. Et puis en te l'emmenant, en allant en direction de la prison, une voix intérieure me disait, arrête-toi à l'épicerie et achète-lui une bouteille de coca. Amen. Dieu est le Dieu des expériences. Et quelle joie où que nous nous trouvions, et quelles que soient nos circonstances, quand cette joie vient de Dieu et vient de l'intérieur. C'est comme Paul dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 4, alors qu'en écrivant cette épître, Paul se trouvait en prison. Paul dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas de temps en temps, toujours. Et puis de peur que peut-être on ne comprenne pas ce qu'il a dit, il a dit, je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Alors si peut-être vous n'avez pas compris ce que Paul a dit, lisez Philippiens chapitre 4, verset 4. Et imprégnez-vous du livre de Philippiens qui est un hymne à la joie. Et la parole de Dieu va créer la joie en vous. Amen. Parce que la parole, lorsqu'elle est envoyée, crée toujours la vie dans le cœur de celui qui la reçoit favorablement. Amen. Dernier point. Qui, à mon avis, nous rend joyeux. La joie, et Sam en a parlé dimanche, tellement bien. La joie de servir Dieu, d'être là où il nous veut, même si on ne comprend pas toujours ses plans. Je peux répéter cela? La joie de servir Dieu, d'être là où il nous veut, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il veut. Même si on ne comprend pas toujours ce qu'il fait avec notre vie, quelle joie d'accepter ce qu'il fait. Parce que finalement, là où Dieu nous envoie de manière parfaite et il est toujours avec nous. J'aimerais terminer en vous racontant une parabole. Je lisais l'autre jour une histoire tellement belle, qui à mon avis illustre tellement bien ce point. C'est la période de Noël, la période des contes, et j'ai trouvé cette histoire belle et je voudrais terminer par ce conte. C'est trois arbres qui discutent ensemble. Trois petits arbres. J'ai dit, c'est une parabole, hein. Dans les paraboles, on peut faire parler qui on veut. Ces trois petits arbres discutent ensemble. Et l'un des arbres dit à l'autre, moi, quand je serai plus grand, regardant les milliers d'étoiles qui brillaient dans le ciel, je voudrais être un coffre à trésors. Et je voudrais que se tiennent dans mon coffre des bijoux qui scintillent autant que scintillent les étoiles du ciel. L'autre arbre de dire, moi, quand je serai grand, regardant le ruisseau qui se dirigeait en direction de l'océan qui était à côté de lui, dit, mais moi, ce que je voudrais quand je serai plus grand, c'est devenir un bateau énorme sur lequel, avec lequel je voguerai dans les océans et sur lequel je transporterai les grands de ce monde. Et puis le dernier arbre de dire, moi, je voudrais qu'on me coupe pas, mais je voudrais grandir et grandir et grandir. Et je voudrais que chaque fois qu'une personne regarde ma taille, elle puisse glorifier le nom de Dieu. Et voilà que les jours passent et que les jours passent, et que les jours passent, le premier bûcheron arrive et coupe le premier arbre, qui se dit « Enfin, je vais être ce cofratrésor que j'ai tellement rêvé d'être ». Et le deuxième bûcheron arrive, il coupe le deuxième arbre, et l'arbre de dire « Enfin, je vais être ce bateau qui vaugue les océans, celui qui transportera les grands de ce monde, celui que je voulais être ». Et voilà qu'arrive le troisième bûcheron, et qu'il coupe le dernier arbre, qui lui était tellement triste, parce qu'il voulait continuer à grandir, et à grandir, et à grandir. Et puis le temps passe, et passe encore. Le premier arbre a été donné à des menuisiers, et eux, n'ayant pas le temps de faire de lui un coffre à trésor, ont fait de lui une simple mangeoire. Et alors qu'il aurait aimé transporter un trésor, tout ce qu'il transportait était de la paille pour nourrir les animaux. Le deuxième arbre a été donné à un chantier naval. Et alors que lui aurait aimé tellement être un grand bateau, personne n'avait le temps de faire de lui un grand bateau. Ils en ont construit une petite barque, qu'ils ont mis non pas sur l'océan, mais sur un lac. Et sur ce lac, ils travaillaient pour des pêcheurs, qui le chargeaient de poissons morts qu'ils allaient vendre. Ils sentaient tellement mauvais. Et puis le troisième arbre qui avait été coupé, lui qui aurait aimé être tellement grand pour glorifier le nom de Dieu, il a été simplement coupé en grondins et mis dans un hangar de côté. Et voilà que les jours passent, et que les jours passent, et que les jours passent. Le premier arbre qui lui servait à nourrir les animaux, un dimanche, il voit, regardant le ciel, une étoile qui brillait plus que les autres. Et puis il entend une femme s'approcher de lui et dire « Bien finalement, je n'ai pas de berceau, mais cette mangeoire ira très bien pour déposer mon petit enfant. » Et Joseph, le mari de cette femme, de dire « Je suis désolé, j'aurais tellement aimé t'offrir un berceau. » Et Marie de lui dire « Mais t'inquiète pas, cette mangeoire va très bien, on va y mettre de la paille fraîche et on va y coucher Jésus. » Et cet arbre de se dire « Finalement, je n'ai pas porté un trésor qui était valorisé aux yeux des hommes, mais j'ai porté le plus grand des trésors qui existent sur cette terre, à savoir la personne de Jésus. » Et puis l'autre arbre, alors que les années passent, il voit monter en lui un homme avec ses disciples. Et puis cet homme commence à s'endormir sur le bateau. Et puis là vint une tempête et le bateau commençait à avoir peur. Il disait « Mais si seulement j'avais été un grand bateau, j'aurais pu supporter la tempête, mais avec cette tempête, je vais couler. » Et puis là, d'un coup, il voit l'homme qui dormait se lever dans la barque. Il lève la main et il dit à la tempête « Paix, cesse maintenant. » Et la tempête a cessé. Et la barque de réaliser « Mais j'ai porté celui qui finalement est le plus grand, Jésus, le roi des rois, celui qui a autorité. » Et puis le temps passe, les mois passent. Et voilà que celui qui avait été mis dans un hangar voit son propriétaire le prendre. Et pendant que ce morceau de bois, ces grondins se promènent, il entend la foule clamer, huer la personne de Jésus. Il l'entend huer. Et il est impressionné, parce qu'arrivé un moment, il voit des clous planter les mains de ce personnage dans son bois et s'élever le vendredi. Et ces grondins de dire « Ok, j'ai été coupé. Je n'ai pas été glorifié parce que j'ai poussé plus haut que les autres. Mais maintenant, chaque fois que l'on me regarde, chaque fois que l'on tourne les regards vers moi, qui suis devenu une croix portant la personne de Jésus, chaque fois que les personnes me regardent, elles glorifient Dieu, elles glorifient son nom. Parce que tellement grand a été l'amour de Dieu pour ceux qui ont souffert sur moi le bois de la croix. Amen. Le premier l'a rendu beau, bien que vil aux yeux des hommes, la mangeoire. Le deuxième, il l'a rendu fort, bien que faible aux yeux des hommes, la barque qui transportait Jésus. Et le troisième, il l'a rendu tellement glorieux, bien que misérable aux yeux des hommes, parce que Jésus y est mort. Amen. Alors, ayons cette joie de dire, Seigneur, merci, parce que où que tu me veuilles, même si c'est pas mon désir ou ton plan ou mon plan à moi, eh bien que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Et si ça doit passer par des épreuves ou des difficultés, qu'importe, je trouverai ma joie, non pas dans les épreuves ou dans les difficultés, mais parce que l'Esprit vit en moi et qu'il me conduit selon la volonté de Dieu. Amen. Alors ce soir, je rappelle simplement ces points. La joie vient premièrement de l'assurance du salut. Elle vient deuxièmement du Saint-Esprit qui nous remplit. Elle vient troisièmement et elle grandit lorsque nous conduisons des personnes à Jésus et leur permettons au travers de cela de vivre, oui, l'expérience du salut, mais aussi l'expérience des miracles de Dieu. Et enfin, dernier point, la joie vient lorsque nous servons Dieu là où il nous veut, même si on ne comprend pas tout. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.